une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 25 octobre, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'actualité avec la rédaction. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez et podcaster cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. Le Qatar va être au cœur de notre session et plus exactement les relations entre la France et le Qatar et l'inverse. Notre invitée journaliste, elle s'appelle Vanessa Ratigné. Avec Pierre Péan, elle vient d'écrire une France sous influence quand le Qatar fait de notre pays son terrain de jeu. Ce livre est publié chez Fayard. Bonjour Vanessa Ratigné.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro et d'emblée, je cite une des phrases de votre volumineux travail. L'argent constitue la pierre angulaire de la philosophie qatari, c'est simple, tout s'achète, y compris les gens. Parlant.
Oui, tout à fait. Le Qatar est lancé dans une quête d'influence effrénée depuis que l'ancien émir a pris le pouvoir en 95. Là, je parle de l'émir Hamad Al-Thani, dont le souhait était vraiment d'inscrire son pays sur la carte du monde, d'avoir son rond de serviette à la table des grands. Et donc, pour parvenir à exister sur la scène internationale, pour acquérir une influence considérable, il a utiliser justement les revenus gaziers, car le Qatar détient les troisièmes réserves mondiales de gaz, après la Russie et l'Iran. Donc les revenus de ce gisement gazier lui ont permis justement d'acquérir à grand prix beaucoup d'influence. Et la France est un pays dans lequel le Qatar a tout de même une place assez importante.
C'est bien qu'on puisse dire, on va le constater dans un instant. Et avant de prendre la route de Doha, Vanessa, je vous propose d'écouter deux voix. Celle d'abord du docteur Denis Mukwege, le gynécologue qui aide depuis des années les femmes victimes de viols, notamment dans le sud Kivu, en RDC. Donc, il a reçu mardi le prix Sakharov, décerné par le Parlement européen. Écoutons-le.
Aussi bien pour les Congolais que la communauté internationale, c'est une façon en fait d'éveiller cette conscience par rapport à une crise qui a trop duré. Et je crois que pour moi, c'est très très important que les Congolais sachent d'abord qu'ils doivent prendre leurs problèmes à main. Et je crois qu'il est grand temps vraiment que le peuple congolais se mobilise, qu'il se mette debout comme un seul homme pour sortir de ces cercles vicieux qui est infernal, des massacres, des enlèvements de femmes qui disparaissent, qui sont amenées en esclavage sexuel. Il faut la réalité, la regarder en face pour trouver des solutions. Ça trop durait.
Propos recueillis par Florence Maurice, autre voix toujours en Afrique. C'est celle cette fois de Brice Delevigne, le directeur des opérations de Médecins Sans Frontières Belgique, alors que l'organisation a guéri son 1000e malade victime d'Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est encourageant, très encourageant.
C'est très important de dire que l'Ebola n'est pas quelque chose qui signifie uniquement une issue fatale, mais qui a aussi effectivement un espoir et de ressortir guéri. Surtout si la population a confiance dans le centre et se rend le plus tôt possible dès qu'elle sent les premiers symptômes. Raison pour laquelle on essaye que nos centres soient pas avec des grands murs, qu'on puisse voir à l'intérieur, etc. C'est que les gens sinon ont juste une image, voilà, de gens en combinaison qui ressemblent un peu à des cosmonautes qui viennent chercher les personnes qu'ils aiment dans leur communauté et bien trop souvent malheureusement ils ne les voient pas revenir. Donc c'est contre cette perception-là qu'il faut essayer de lutter évidemment.
Une semaine d'actualité, une pensée pour un journaliste américain qui nous a quitté. Il s'appelait Ben Bradley, il était le rédacteur en chef du Washington Post à l'époque du Watergate. Grâce à lui, Bob Woodward et Carl Bernstein avaient pu mener leurs recherches jusqu'au bout. 28 mois d'enquête, Vanessa Ratigné, 400 articles publiés qui ont entraîné la chute du président Nixon.
Sept jours dans le monde.
Et partons maintenant pour le Qatar. Vanessa, le Qatar inquiet pour sa sécurité et qui va acheter des armes à la France, notamment en correspondance de Doha signée Laxmi Lotha.
Le Qatar est préoccupé par le terrorisme, avec l'avancée de l'organisation État islamique dans la région, mais aussi en raison des grands événements sportifs que l'émirat va accueillir, le championnat du monde de handball l'an prochain et la Coupe du monde de football en 2022. Pour le président du comité Millipol Qatar, le brigadier Nasser bin Fahed Al-Sani, l'émirat va forcément se doter de nouveaux équipements de sécurité.
C'est très important pour nous. Nous voulons que le Qatar reste un pays sûr pour ses habitants et les expatriés. Nous avons besoin de ce salon pour améliorer tout notre département sécurité au ministère de l'Intérieur.
Le salon Millipol est donc une très grande opportunité pour les plus de 250 exposants présents. Parmi eux, une vingtaine d'entreprises françaises, dont Nexter, Thales ou Airbus. Selon le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, la France a de l'expertise à proposer, notamment pour former les forces de sécurité. Le ministre se veut optimiste quant à la signature de contrats.
Les contrats, on les commente après qu'ils ont été signés. J'ai quelques espérances, mais on va attendre que ce soit terminé pour consacrer ce qui aura été fait. Et je suis convaincu que ce salon sera un très bon cru, une bonne édition.
En 2012, le Qatar avait signé pour 53 millions d'euros de contrats au total lors du salon Millipol.
Une semaine d'actualité donc en compagnie de Vanessa Ratigné qui signe avec Pierre Péan une France sous influence quand le Qatar fait de notre pays son terrain de jeu. Ça y est, nous y sommes à Doha, au Qatar. Vanessa, alors je précise que Thales, l'entreprise de Thales, a remporté un contrat pour les communications militaires du Qatar à l'occasion de ce salon Millipol. Les affaires continuent.
Toujours, toujours. Le salon Millipol est un petit peu le salon de la sécurité intérieure qui est organisé, si je ne me trompe pas, chaque année, une fois à Paris, une fois à Doha. Il est de tradition que le ministère de l'Intérieur français s'y rende pour l'inaugurer, donc Bernard Cazeneuve cette année. S'y sont également rendus Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy en 2005. C'était d'ailleurs à l'époque son premier voyage à Doha. Il y est également allé un peu plus tard Brice Hortefeux. Donc c'est un petit peu, si vous voulez,
Un vrai défilé
pour nos politiques, une vraie opportunité aussi pour nos vendeurs d'armes, car le Qatar est quand même un marché intéressant, qui est également intéressant aussi pour l'Élysée, puisqu'il est, il serait éventuellement question, enfin, Paris souhaite vendre à Doha des Rafales, 36 si je ne me trompe. Donc bon, on est toujours aussi sur ces questions de contrat. Je me demande si Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian, qui étaient aussi à Doha à ce moment-là, n'y pensaient pas, puisque bon, c'est un petit peu la grosse attente aussi concernant le Rafale.
Alors l'Émirat fait miroir, écrivez-vous avec Pierre Péan. Il nous révèle une France sous influence. On y lit avec une certaine limpidité le fonctionnement de nos élites. Souvent, elles n'hésitent pas à aller à rebours des intérêts de notre pays. C'est grave.
Ben c'est le constat que nous tirons avec Pierre Péan de cette enquête que nous avons menée ensemble, où nous revenons sur une relation ancienne entre Paris et Doha, qui s'inscrit vraiment dans le XXe siècle, dans l'ère des colonies.
Il faut préciser que le Qatar est indépendant depuis 1971.
Tout à fait. Ouais. Depuis septembre 71, le Qatar est un État indépendant. Jusqu'à présent, il était un protectorat britannique, mais la France est présente au Qatar depuis les années 30. À l'époque, Total, qui à l'époque s'appelait la Compagnie Française des Pétroles, avait ouvert un bureau d'exploration. Ils ont participé avec le Qatar aux premières premières extractions de pétrole, d'où un lien qui est très particulier entre Total et le Qatar, mais nous y reviendrons. Donc les relations avec le Qatar sont anciennes, mais ces relations ont mal tourné. C'est ce que l'on voit notamment à partir de 2007, suite à l'élection de Nicolas Sarkozy à la...
Oui, parce que là vous écrivez, pour le coup, pour être un peu plus précis, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, enfin Nicolas Sarkozy a tout fait pour combler les espérances du petit émirat, souvent au détriment de l'intérêt général de son pays.
Très rapidement, enfin, sitôt entré à l'Élysée, il va installer le Qatar comme pivot diplomatique de Paris au Proche et au Moyen-Orient, ce qui va d'ailleurs entacher nos relations avec nos alliés dans la région.
L'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite, notamment, les Émirats Arabes Unis aussi, où nous disposons d'ailleurs d'une base militaire. Ce tropisme qatari est notamment illustré par la révision à l'époque, en 2008-2009, de la convention fiscale. En fait, c'est une convention internationale qui réglemente l'imposition des biens qataris en France. Elle a été signée en 1990. Le Qatar a fait des pieds et des mains pour modifier les dispositions de la convention. Nicolas Sarkozy en acte le principe lors d'un voyage à Doha en janvier 2008 avec l'ancienne émir Hamad Al Thani, qui a depuis transmis le pouvoir à son fils en 2013. Oui. Et il faut rappeler qu'à cette époque-là, on est en pleine crise des subprimes, il y a la faillite de Lehman Brothers, donc on redoute l'effondrement du capitalisme, on recapitalise les banques en urgence. Et on va vider la convention fiscale de sa substance. Enfin, l'exemple peut-être le plus parlant est celui des biens immobiliers, c'est-à-dire que les Qataris sont exemptés de la plus-value en cas de revente de leurs biens immobiliers. Et à partir de là, les Qataris qui sont quand même très francophiles, qui aiment beaucoup la France, qui aiment beaucoup aussi l'image, le rayonnement français, le prestige, vont démultiplier leurs investissements dans la pierre, dans l'immobilier de prestige, dans l'hôtellerie de luxe, mais aussi dans les fleurons du capitalisme français, dans le sport, en rachetant le Paris Saint-Germain. Donc on a vraiment, à partir de 2007, un lien très très étroit qui est instauré par Nicolas Sarkozy entre Paris et Doha, qui se voit aussi bien à l'intérieur du pays, de par les achats du Qatar, mais aussi à l'international et dans nos engagements diplomatiques.
Un lien tout à fait malsain, il faut le dire. Hein.
Un lien qui est quand même très très singulier, qui pose aussi beaucoup de questions sur...
Un mélange d'intérêt public, d'intérêt privé, d'intérêt d'individu même.
La question vraiment se pose, puisque même dans des relations diplomatiques très proches, là on pouvait se demander jusqu'où allaient ces liens et quels en étaient les réels dessous.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons parler, Vanessa Ratignier, de l'annonce surprise de la Turquie. Ankara va en effet, en principe, laisser les combattants kurdes irakiens venir renforcer les combattants assiégés par l'organisation de l'État islamique à Kobané, bien sûr. Correspondance lundi de Jérôme Bastien.
Revirement de position très net de la part d'Ankara, qui s'est toujours refusé à apporter la moindre aide aux Kurdes syriens, jusqu'à présent considérés, dixit encore hier soir le président turc Recep Tayyip Erdogan, comme des terroristes. Mais les efforts des États-Unis ont fini par avoir raison de l'intransigeance des Turcs, tout en respectant leur sensibilité, comme a expliqué le président américain à M. Erdogan hier au téléphone. Des armes ont donc été parachutées la nuit dernière à Kobané même, sans passer par l'espace aérien turc, et des combattants, qui ne sont pas des membres du PKK, la rébellion kurdes de Turquie, toujours combattus par Ankara, sont autorisés à transiter par le territoire turc, mais sans aucune arme, armes qui de toute façon sont livrées par les airs. Ainsi, pour Ankara, les apparences sont à peu près sauves, l'honneur aussi, et les États-Unis peuvent poursuivre leur objectif de combattre, voire défaire les forces de l'État islamique, alors que la bataille de Kobané avait pris, au fil de la résistance des Kurdes, une importance stratégique capitale. Le ministre turc des Affaires étrangères a tenu à rappeler que pour lui, les Kurdes du pays grec D demeurent indésirables parce qu'ils ne rejettent pas en bloc le régime de Bachar el-Assad, parce qu'ils ont proclamé unilatéralement leur autonomie il y a 2 ans et parce qu'ils refusent de rejoindre les rangs de l'armée syrienne libre. Toujours est-il que le blocus de Kobané, promis à une reddition quasi certaine, est levé et c'est l'essentiel.
À suivre évidemment dans nos journaux, suite d'une semaine dans le monde, au Canada cette fois, à Ottawa, où un homme armé, vous le savez, a tué un soldat en plein centre de la ville avant de se rendre au Parlement, où il a été abattu au cours d'une fusillade au sein même du bâtiment officiel. Le tireur était, semble-t-il, connu des services de police et de justice. Correspondance jeudi de Pascal Guéricola.
La police canadienne trace le portrait d'un tireur solitaire qu'un lien très mince semble relier à un suspect qui a fait l'objet d'accusations terroristes au Canada. Michael Zeaf Bibo traînait derrière lui un passé de petite délinquance, que ce soit des condamnations pour possession de drogue, des vols ou des menaces. Selon les policiers, il séjournait à Ottawa depuis 3 semaines dans l'espoir de recevoir bientôt son passeport. Contrairement à ce qui a été dit dans les heures suivant la fusillade, personne ne lui avait retiré ce document de voyage. Par contre, il était sous enquête pour l'obtenir, peut-être en raison de son passé criminel. Il avait expliqué aux autorités vouloir aller en Libye, le pays de son père, pour étudier l'arabe, mais il aurait confié à sa mère il y a quelques jours qu'il voulait plutôt se rendre en Syrie. Toute cette affaire incite le Premier ministre Stephen Harper à vouloir changer la législation canadienne pour que les services de renseignement puissent disposer de pouvoirs accrus afin de prévenir d'autres attentats. Un projet de loi en ce sens devait d'ailleurs être discuté par les parlementaires cette semaine, avant même que les événements des derniers jours ne surviennent.
Notez aussi que les chefs d'État et de gouvernements européens ont trouvé un accord sur l'ampleur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'ici 2030, reste maintenant à passer aux actes. Vous écoutez RFI, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité, donc en compagnie de Vanessa Ratignier. Il faut rappeler que le Qatar fait partie de la coalition contre l'organisation de l'État islamique, joue un rôle même militaire en principe.
Tout à fait, le Qatar accueille depuis le début des années 2000 le centre de commandement aérien américain qui depuis lequel partait en 2003 lors de la guerre américaine contre Saddam Hussein les chasseurs qui allaient bombarder Bagdad. Donc les Américains ont près de Doha leur centre de commandement, le Qatar a rejoint la coalition internationale
pour faire quoi ? On se le demande pour l'instant précisément.
C'est vrai que le Qatar est relativement discret sur le sujet. Il a été beaucoup critiqué concernant son ambivalence justement par rapport au terrorisme. Plusieurs rapports du Trésor américain publiés ces derniers mois ont justement pointé, si vous voulez, un contexte législatif au Qatar qui ne rendrait pas très compliqué la collecte de fonds sur son territoire pour financer le terrorisme. Donc des questions se posent, savoir jusqu'où le Qatar ferme-t-il les yeux sur ces donations privées qui transiteraient par son territoire.
Alors il y a eu cette semaine, Vanessa, une visite du président de l'Équateur, Rafael Correa, au Qatar. Il a signé des accords pour des investissements du Qatar dans son pays. On pourrait se dire, il est normal que la France en fasse ainsi, mais vous l'enquête, je le précise pour être clair, pointe l'état de dépendance dans lequel c'est placé la France, en quelque sorte, par rapport au Qatar.
En fait, on menait une enquête avec Pierre Péan pour un documentaire pour France 5, donc qui était vraiment à visée géopolitique sur le Qatar, son histoire, son contexte, ses ambitions. Et au fil de notre enquête, en fait, ce qui nous a paru fascinant, c'est l'image que ça nous renvoyait de nos élites. C'est-à-dire que nous, vraiment, dans ce livre, nous utilisons le Qatar comme un miroir de l'état de nos élites, comme un miroir de la société française contemporaine. Et comme vous le dites, ce qui est fascinant, même assez glaçant, c'est de voir jusqu'où les liens entre Paris et Doha conduisent parfois nos dirigeants à malmener l'intérêt général et à rudoyer aussi nos principes républicains.
Alors, c'est quelque chose qui avait été souligné, il était venu nous en parlait Jacques-Marie Bourget, qui a écrit avec Nicolas Beau Le vilain petit Qatar, chez le même éditeur d'ailleurs, il me semble, Fayard, il y a un peu plus d'un an. Et il faut préciser que le Qatar a, vis-à-vis des djihadistes, de l'islamisme, une position là aussi un peu ambiguë. On parlera tout à l'heure de la Libye et du Mali, c'est assez ambigu, hein.
Mais disons que le Qatar, dans cette quête effrénée, pour ne pas dire frénétique, d'influence, se tisse des liens un petit peu partout. C'est-à-dire que leur premier coup d'éclat à l'international pour devenir un peu le médiateur de l'impossible a été leur intervention dans la crise interlibanaise. Donc au Liban, depuis plusieurs mois, le Liban n'avait plus de gouvernement et ils sont parvenus à faire signer les accords de Doha, donc en mai 2008. Qui ont permis donc au Liban d'avoir désormais un gouvernement, ce qui était vraiment leur... Ils ont même, à l'époque, été un peu raillés par le New York Times. C'est donc
le
leur
Liban
idée...
sous influence syrienne, il faut le rappeler.
Mais c'est leur idée au Qatar était vraiment, si vous voulez, d'avoir des relais d'opinion un petit peu partout. Alain Chouet, qui était un ancien directeur à la DGSE, nous l'explique très bien comme on le relate dans le livre, d'avoir des relais d'opinion un petit peu partout, d'être copains à la fois avec le Hamas. Ils ont eu des relations très suivies aussi avec Israël, relations qui aujourd'hui sont devenues froides, pour ne pas dire glaciales. Les Américains sont très très proches des Américains. D'ailleurs, c'est la base américaine dont nous venons de parler à Doha qui protège Doha face à ses voisins. Donc proche des Américains et en même temps proche des talibans. Donc il y a, si vous voulez, cette politique un petit peu d'équilibriste pour être un petit peu le médiateur de l'impossible qui font qu'ils ont des relais partout. Et il y a eu comme ça dans tous les pays où le pouvoir était à prendre, et je pense notamment au printemps arabe, en Égypte jusqu'au renversement de Mohamed Morsi, donc en juillet 2013. En Libye, en Syrie aussi, énormément de soutien face aux rebelles et soutien qui soulève aussi beaucoup de questions.
Vanessa Ratignier, nous allons marquer une pause afin d'écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Merci pour ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec bien sûr la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Le Qatar et les relations entre la France et le Qatar sont au cœur de notre émission. Nous en parlons avec notre invitée Vanessa Ratignier qui, avec Pierre Péan, vient d'écrire une France sous influence quand le Qatar fait de notre pays son terrain de jeu, une enquête publiée chez Fayard. Dans un instant, nous partirons pour l'Afrique, bien sûr, mais faisons d'abord une pause en France. Pour parler d'abord de la disparition lundi dans la nuit dans un accident d'avion à Moscou du PDG de l'entreprise pétrolière Total, Christophe de Margerie, un proche des Russes. Moscou, correspondance mardi de Muriel Pomponne.
Christophe de Margerie était opposé aux sanctions à l'égard de la Russie et ne le cachait pas. Ainsi, juste avant sa mort, il a participé à une réunion sur les investissements étrangers présidée par le Premier ministre russe Dmitri Medvedev. Le patron de Total n'a sans doute pas résisté à l'opportunité de jouer une fois de plus les intermédiaires non officiels entre Paris et Moscou. Son dernier discours devant Dmitri Medvedev en fait foi. Il s'y déclare opposé aux sanctions, affirme qu'il ne veut pas s'immiscer dans les questions politiques, mais il enjoint le gouvernement russe à rétablir un espace de stabilité et de paix entre la Russie et l'Europe, ajoutant qu'il donne le même conseil à son gouvernement. Dans l'énergie, tous les sujets sont liés à la politique, disait-il. À la Chambre de commerce France-Russie, il était coprésident avec Gennady Timchenko, l'un des oligarques les plus influents de Russie. Il connaissait personnellement tous ceux qui comptent ici dans le monde des affaires et de la politique et reconnaissait avoir eu des rendez-vous au Kremlin. Il avait aussi rencontré Sergueï Narychkine, le président du Parlement, lors de sa visite en France à l'invitation du Conseil de l'Europe, alors que celui-ci est sous le coup des sanctions. On ne résoudra pas la crise ukrainienne sans les Russes, se justifiait Christophe de Margerie.
Deux successeurs ont été nommés mercredi par le conseil d'administration de Total, Thierry Desmarais, président du conseil d'administration du groupe, et Patrick Pouyanné, directeur général. Un mot de politique pour rappeler le réveil politique, justement, dimanche, de Martine Aubry, qui, sur Internet et dans un entretien au journal du dimanche, a critiqué la politique du gouvernement. Et les propos de Manuel Valls, le Premier ministre, dont on ne pourra peut-être même plus dire qu'il n'a de socialiste que le nom, puisqu'il souhaite précisément que le PS change de nom. Suite d'une semaine d'actualité avec la mise en examen de Patrick Balkany, député-maire UMP de Levallois-Perret, dans la banlieue parisienne, pour blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption. Une autre mauvaise nouvelle pour Nicolas Sarkozy, dont il est un proche, Guilhem Deltaï.
Pour Tracfin, l'organisme de lutte contre la fraude fiscale, les seuls revenus officiels du couple Balkany ne sauraient justifier la détention de leur patrimoine. Au cœur des soupçons de la justice, deux villas régulièrement occupées par les deux élus, l'une à Saint-Martin, aux Antilles, l'autre à Marrakech, au Maroc. Elles appartiendraient au député-maire de Levallois-Perret et à son épouse, également sa première adjointe. Une propriété directe ou indirecte, car Tracfin a repéré plusieurs sociétés écrans qui seraient détenues par les Balkany. Le couple posséderait aussi plusieurs comptes offshore, des comptes sur lesquels Patrick Balkany se serait fait rémunérer un certain nombre de services rendus sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Son amitié avec l'ancien président lui avait permis d'œuvrer comme intermédiaire dans des contrats commerciaux signés entre des entrepreneurs européens et des pays africains. En se faisant payer sur des comptes à l'étranger, Patrick Balkany aurait dissimulé une partie de ses revenus aux services fiscaux français. Selon le journal Le Monde, Tracfin a rédigé plusieurs notes à ce sujet, des notes transmises aux deux juges d'instruction en charge du dossier et qui révèle un schéma sophistiqué de fraude visant à dissimuler l'origine de revenus et le bénéficiaire effectif de biens.
Suite d'une semaine d'actualité, nous allons continuer à parler des relations entre le Qatar et la France, ou entre la France et le Qatar, avec vous, Vanessa Ratignier, co-auteur de cette enquête sur l'influence des Qataris en France, une France sous influence, publiée chez Fayard, où on apprend, ou j'ai appris en tout cas, que Total a perdu un contrat en Libye pour avoir cherché à satisfaire, je cite le titre de ce chapitre, pour avoir cherché à satisfaire les ambitions du Qatar.
Ce sont les confidences que nous a faites Ziad Takieddine, qui était donc à l'époque le go-between intermédiaire en chef de la Sarkozy en Libye. Et donc je reprends ces déclarations qui sont donc toujours à prendre avec précaution, donc pour restaurer, si vous voulez, l'importance de Total en Libye. Je précise d'ailleurs que le contrat n'a pas été signé et une enquête est actuellement en cours sur le projet de contrat. Et donc, d'après ce que Takieddine nous a confié, un contrat était sur le point de se signer entre Total et la Libye, dans laquelle donc il est intervenu sur des gisements gaziers. Et d'après ce qu'il nous a dit, le contrat aurait échoué parce que Christophe de Margerie aurait tenté d'inviter le Qatar à la table des négociations contre la volonté de Muammar Kadhafi, qui avait des relations qui étaient assez particulières avec le Qatar, puisque bon, l'ancien émir Ahmad, donc l'émir du Qatar à l'époque, était proche de Muammar Kadhafi. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a fait signe à la France au moment de la campagne présidentielle de 2007, en faisant savoir à Nicolas Sarkozy qu'il pourrait éventuellement intervenir dans le cadre de la libération des infirmières bulgares. Donc là, on était en juillet 2007. Mais malgré ces relations-là, entre le Qatar et la Libye, bon, tout n'était pas rose. Et donc Muammar Kadhafi ne souhaitait pas que le Qatar vienne participer à l'exploration de son sous-sol, qui est très très riche en hydrocarbures. Et donc, d'après ce que nous a dit Ziad Takieddine, le contrat aurait échoué car Kadhafi aurait appris que Margerie était aussi en négociation en parallèle avec le Qatar. C'est ce qui est très intéressant aussi dans cette histoire de projet de contrat, ce sont les liens entretenus par Total avec le Qatar, car Total est présent au Qatar depuis très longtemps, mais Total est très présent aussi dans l'exploration du sous-sol qatari, qui recèle un petit peu de pétrole, mais finalement assez peu, et qui a une industrie très développée dans le gaz. C'est le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié, et c'est ce que nous expliquait justement Francis Perrin, donc spécialiste
des questions pétrolières, ouais.
Tout à fait, qui est rédacteur en chef de Pétrole et Gaz Arabes. C'est que le Qatar est présent dans toutes les structures d'exploration, de raffinage, d'exportation aussi de pétrole au Qatar.
Alors on pourrait parler des infirmières bulgares, de cette rançon de 452 millions de dollars, il me semble.
C'est, à l'époque, l'intervention du Qatar est suffisamment mystérieuse pour que les parlementaires français s'en soient emparés. On montait une commission d'enquête parlementaire, on auditionnait différents membres de l'exécutif, sans parvenir néanmoins à trouver le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire dans quel contexte s'inscrit-elle, jusqu'où va-t-elle. Donc il y a toujours aujourd'hui ce mystère qui plane.
Alors il y a plein de choses dans votre travail, mais il faut dire quand même un mot, parce qu'on parle beaucoup de football sur cette antenne, du Paris Saint-Germain.
Ah oui, le Paris Saint-Germain, c'est complètement fou, qui a été racheté par le Qatar Sport Investment, qui est finalement une sorte de filiale du fonds souverain qatari Kia, dont l'objectif officiel est de pallier à l'épuisement programmé des hydrocarbures en déployant le portefeuille du Qatar à l'international. Et donc Qatar Sport Investment a racheté le Paris Saint-Germain en 2011-2012 et finalement fait de lui un acteur international présent dans tous les secteurs.
Mais là, il y a eu un marchandage avec Nicolas Sarkozy, Michel Platini, semble-t-il.
Vous parlez du déjeuner qui a été organisé donc à l'Élysée.
On soutient le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde de foot en 2022, comme chacun sait. On ne sait pas trop quand ça aura lieu en hiver, semble-t-il, d'après les dernières informations. Il y a eu un marchandage.
Disons que le Qatar avait déjà essayé en 2006 de racheter le Paris Saint-Germain. À l'époque, si je me trompe pas, Canal Plus le vendait. Le Qatar était sur les rangs, ça ne s'était pas fait. Et il a remis ça quand en 2010, le PSG était à nouveau à vendre. Mais cette fois, il était détenu par le fonds américain Colony Capital. Donc les négociations étaient en cours, mais bon, ça traînait. Faut se rappeler aussi qu'à l'époque, le Paris Saint-Germain était très endetté. Mais il disposait déjà d'un potentiel énorme, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, c'est le seul club de foot professionnel de Paris. Ça peut potentiellement constituer une vitrine extraordinaire. Ça peut faire rayonner le propriétaire du club bien au-delà des frontières françaises. Le Qatar l'a bien compris, qui donc a décidé de se remettre sur les rangs en 2010. Donc les négociations traînaient, il y a ce fameux déjeuner, donc organisé à l'Élysée par Nicolas Sarkozy, où se retrouve autour de la table Tamim, qui à l'époque était prince héritier du Qatar, donc qui lui, si vous voulez, son domaine réservé c'était vraiment le sport, se retrouve également là, si je ne me trompe pas, Sébastien Bazin, et invité un petit peu de dernière minute, Michel Platini, qui est le président de l'UEFA, qui était à l'Élysée le matin même, et qui, quelques jours plus tard, participait justement au vote de la FIFA quant à l'attribution de l'organisation du Mondial de foot 2022, organisation à laquelle le Qatar était candidat et comme on le sait bon, désormais, a obtenu justement l'honneur d'organiser la plus grande compétition sportive mondiale. Donc beaucoup de questions se posent quant au rôle de facilitateur de Nicolas Sarkozy, qui donc met autour de la table différentes personnes qui partagent des dossiers sur lesquels les intérêts des uns et des autres sont partagés. Donc, mais tout ça s'inscrit vraiment sous une...
C'est une belle image, en fait, de la relation entre Paris et Doha.
Ben, cette image... Elle est, si vous voulez, c'est une sorte de France-Afrique à l'envers. C'est-à-dire que on raille beaucoup en France les dirigeants africains qui confondent patrimoine personnel et budget de l'État depuis 2007 avec
les
biens mal acquis, mm-hmm. Tout à fait. Et quant au Qatar, absolument rien. C'est-à-dire que au lendemain des printemps arabes, alors qu'on se posait beaucoup de questions quant aux agissements réels du Qatar dans ces printemps arabes, au soutien de Doha par rapport justement aux frères musulmans, il y a eu beaucoup d'accusations d'ingérence en France. Pas un mot.
Deux poids, deux mesures.
Ben c'est vraiment la question qui se pose, c'est-à-dire qu'on pourrait faire la leçon aux dirigeants africains, mais pas aux dirigeants qataris. Est-ce que la situation est-elle si différente? Donc on a vraiment finalement cette espèce de sorte de prise de France-Afrique à l'envers, où finalement on aurait Doha en lieu et place de Paris. Donc oui, beaucoup de questions, mais c'est assez glaçant finalement de sortir de cette enquête que nous avons menée pendant plusieurs mois, où on a vraiment une sorte d'effacement de nos dirigeants face aux desiderata du Qatar et par rapport à l'influence de la France, si vous voulez, aussi à l'importance de la diplomatie et à la nécessité de faire prévaloir une certaine vision du monde, des principes qui nous sont chers, qui pour certains sont même inscrits dans la Constitution. On parlait du Paris Saint-Germain, on parlait de l'organisation du Mondial 2022. Les associations de défense des droits humains.
Où sont les principes?
Voilà, où sont les principes? La situation des travailleurs migrants qui représentent 94% de la main-d'œuvre au Qatar, qui crée la richesse de ce pays-là. Tous ces travailleurs migrants vivent dans un système esclavagiste. L'ancien premier ministre Ahmad Bin Jassen d'IHBJ a lui-même parlé d'esclavagisme. Et pourtant, on ne dit rien. Personne ici ne s'offusque de ces conditions de travail absolument scandaleuses.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir pour l'Afrique, Vanessa Ratignier. Revenir d'abord sur le prix Sakharov du Parlement européen qui récompense donc chaque année un défenseur des droits de l'homme. Il a été attribué au docteur Denis Mukwege que nous avons écouté au début de l'émission Florence Maurice.
Il a étudié la gynécologie en France, mais c'est auprès des femmes de son pays qu'il mène son combat, des femmes au corps meurtri par la guerre. Chaque jour, le docteur Mukwege et ses équipes les accueillent, les écoutent et les soignent dans l'hôpital Panzi qu'il dirige depuis 1999. En 15 ans, près de 45 000 femmes violées et mutilées dans la région y ont été reçues. Un combat contre la barbarie, un combat contre le silence aussi. Plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de la paix et déjà récompensé par des distinctions internationales, le docteur Mukwege veut aussi porter la parole de ces femmes et s'empare des tribunes qui lui sont offertes pour dénoncer leur drame qu'il qualifie de crime contre l'humanité. Un discours qui dérange certains, au point qu'en octobre 2012, il échappe à une tentative d'assassinat et doit être exfiltré en urgence vers la Belgique. Mais son exil ne dure pas longtemps, car très vite, les femmes de Bukavu le réclament. Elles se mobilisent même pour lui offrir son billet d'avion retour. « Je n'y retourne pas pour être martyr, j'y retourne pour vivre », explique-t-il quelques semaines plus tard. Je ne veux pas être un héros mort, je veux continuer à faire mon travail.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, au Burkina Faso, avec cette fois le début d'une campagne de désobéissance civile, après l'annonce par le gouvernement d'un projet de loi qui vise à convoquer un référendum pour modifier l'article 37 de la Constitution, qui permettrait au président de se représenter pour un nouveau mandat. Correspondance mercredi de Yaya Boudani.
Pour protester contre ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel, l'opposition entame sa campagne de désobéissance civile par une journée nationale de protestation dans tout le pays. Sarah Sérémé, présidente du Parti pour la démocratie et le progrès.
Je ne vois même pas ce vote avoir lieu, puisque nous rentrons dans une phase de lutte pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais si jamais elle a lieu, je ne vois plus quelle crédibilité un député à nos yeux. Le mot d'ordre de la désobéissance civile, c'est une phase que nous commençons. Nous n'avons pas dit qu'il y a une date limite. Tant que nous n'aurons pas atteint un objectif.
Zéphirin Diabri, chef de file de l'opposition burkinabé, demande aux députés à se joindre à leur lutte contre toute modification de l'article 37 de la Constitution.
L'opposition politique appelle tous les députés patriotes épris de paix et de liberté à faire montre de dignité et à se démarquer du clientélisme et du démarchage des rabatteurs politiques. C'est maintenant au peuple burkinabé qu'il appartient désormais de prendre son destin en main, de s'assumer. C'est aux Burkinabés de savoir ce qu'ils veulent et de le manifester selon leur entendement.
L'opposition politique exige, et je cite, « le retrait immédiat et sans condition du projet de loi gouvernemental ».
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire par courriel ou à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un bonjour par exemple à Mokhtar, à Richard Toll au Sénégal. L'émission Une Semaine d'Actu me permet avec une facilité déconcertante, écrit-il, de ranger en ordre les informations que j'ai reçues durant la semaine. Merci Mokhtar. Bonjour à Bakary Fofi Fofana, toujours fidèle à Bamako. Un salut à Tahirou, à Mopti. Bonjour à Yacouba et à Soumana à Niamey, hein, Benjamin à Paris. Un bonjour à Issouf à Koudougou au Burkina Faso et à Mansour et à Baba Ousmane à Dakar.
Sept jours en Afrique.
Vanessa, avant de reparler du Qatar dans un instant, partons maintenant pour l'Afrique du Sud pour revenir sur le verdict du procès, un procès de 7 mois d'Oscar Pistorius, 5 ans de prison ferme pour avoir tué sa petite amie, correspondance mardi d'Alexandra Bonjon.
C'est devant une salle archi-comble que la juge Tokozile Masipa a prononcé la peine. 5 ans de prison ferme pour avoir tué Riva Steenkamp et 3 ans de prison avec sursis pour utilisation d'une arme à feu dans un lieu public. Il y a eu quelques secondes de silence. Oscar Pistorius est resté le regard figé, regardant droit devant lui. La défense avait demandé une peine de substitution mettant en avant son handicap et ses remords, mais la juge a estimé que le système pénitentiaire sud-africain peut accueillir les personnes handicapées et que la cour ne doit pas donner l'impression qu'il y ait une justice différente pour les riches et pour les pauvres. L'audience a été levée, Oscar Pistorius a été escorté hors de la salle par la police. 1 heure plus tard, un fourgon le transportant a quitté la haute cour de Pretoria. Sa famille a indiqué qu'elle acceptait le verdict. En revanche, le procureur pourrait faire appel. Initialement, il avait requis un minimum de 10 ans de prison. La famille de Riva, elle, est restée discrète, très discrète. Une simple phrase de sa mère, June Steenkamp, en sortant de la salle. Elle a estimé que 5 ans de prison était une peine juste.
Terminons notre voyage africain avec ce reportage touchant de notre envoyé spécial au Liberia, Sébastien Nemeth. Le Liberia où le virus Ebola a fait plus de 2400 morts à ce jour. Un reportage sur un jeune homme qui travaille dans un des centres de soins. Il cherche tout simplement à changer les idées des malades, à les distraire en quelque sorte.
Eric Johnson a 24 ans, la plupart du temps il est agent chargé de prévention, mais en fin de journée il enfile son costume de chanteur et danseur pour amuser le personnel du camp. Puis à 18h, il passe la combinaison intégrale pour aller divertir directement les malades.
Je joue un peu de la comédien, je danse un peu. Il a dit les histoires, ils sont contents, ils rient. Ils ne veulent pas que moi ils sortent parce que quand ils dansent, ils sont vraiment contents. Quand ils veulent partir, ils disent non, non, il faut rester avec nous. Donc quand j'ai fini de danser pour eux, ils sortent. J'ai pu leur dire hey, bonsoir, bonsoir. Hey, disais qui? J'ai dit c'est moi, ils dansaient pour vous tout à l'heure. Ils sont contents. Oh, c'est toi, oh, c'est toi. C'est comme ça, ils sont contents.
Ebola, ça tue rapidement. Faut te protéger, faut sauver tes parents.
Les malades d'Ebola vivent un long calvaire. Les vomissements, diarrhées, douleurs articulaires et fatigue extrême rythment leur quotidien. Pour Eric Johnson, amuser les patients est une revanche sur la vie. Lui qui a été réfugié en Côte d'Ivoire et au Sénégal pendant la guerre civile libérienne.
C'est vraiment important. Bon, moi, souvent, ici, je suis découragé parce que j'ai beaucoup de choses qui se passent dans moi-même en vie. Et ma grand-mère, mon père, ils ont les tués dans la guerre.
Eric Johnson est à la recherche de sponsors. Avis aux amateurs de Michael Jackson.
Ebola a fait à ce jour plus de 5000 victimes, il faut le rappeler. Il y a environ 10 000 personnes contaminées. Le Mali a enregistré, lui, son premier cas confirmé d'Ebola, une fillette venue de la Guinée voisine qui a été placée en quarantaine à Kaï.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons avec notre invitée Vanessa Ratignier continuer à parler du Qatar pour conclure cette émission. Le Qatar au Mali par exemple, et je tiens à rendre un hommage à un autre journaliste, Claude Angéli, qui chaque semaine tient la chronique de ce qui se passe au Mali et voit souvent très juste avant tout le monde, hein, grâce à ces informations, je tenais à le saluer. Ambiguïté là aussi, Vanessa Ratignier, hein, sur l'engagement du Qatar au Mali.
Tout à fait, puisque la France s'engage militairement au Mali, donc en janvier 2013. Donc c'est pas anodin, c'est la France qui envoie son armée en Afrique. Disons que c'est le premier engagement aussi militaire de François Hollande en tant que chef de guerre depuis plusieurs mois. Janvier 2013, tout à fait. Depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs semaines, les inquiétudes grandissent quant à la région du Sahel, suite déjà à la guerre en Libye, aux armes qui du coup se perdent et se dispersent et tombent dans de nombreuses mains dont on ne sait pas lesquelles, où les groupes terroristes parmi lesquels ACMI montent en puissance. Donc à Paris, les inquiétudes grandissent, d'autant qu'il y a beaucoup de prises d'otages à l'époque. François Hollande décide d'intervenir. On est donc en janvier 2013 et 4 jours après la déclaration officielle de François Hollande, le Qatar condamne à mots feutrés l'initiative française.
Et l'émir dit « Je ne pense pas que la force réglera le problème ».
Le Ahmad Bin Jassem, ouais, son diplomate, ouais, en chef, mais donc la voix officielle de l'émirat, tout à fait, dit « Il vaudrait mieux dialoguer ». Donc, de la part d'un allié de la France, de la part d'un pays dont on est très proche, de critiquer cette entrée en guerre, qui est quand même un contexte qui est très particulier, soulève de nombreuses questions. Justement, vous citiez Claude Angéli, qui très tôt...
Du canard enchaîné,
qui très tôt a relayé les inquiétudes, a évoqué des rapports des services français, du renseignement, pointé aussi toutes les questions qui se posaient quant aux agissements du Qatar dans la région du Sahel. Donc ça lève aussi un peu le voile sur cette ambivalence, pour ne pas dire finalement cette duplicité du Qatar, aller de la France, mais en même temps qui ne soutient pas ses engagements, qui fait même plus que ça une déclaration publique, puisqu'Ahmad Bin Jassem, donc le diplomate en chef du Qatar à l'époque, sera suivi par Youssef Al-Qaradawi, qui est donc l'un des idéologues des Frères musulmans, qui est un peu le joker, ouais, diplomatique de Doha, que nous avons d'ailleurs rencontré quand nous nous sommes rendus à Doha, puisque nous avons passé près d'un mois au Qatar.
Donc le prêcheur.
Pour cette enquête, voilà, c'est un petit peu le grand prêcheur qui a une émission à grande écoute sur Al Jazeera, qui s'appelle La Charia et la Vie, et qui lui...
Tout un programme.
Comme vous dites, tout un programme. Donc, qui lui-même condamne aussi cette relais, relais la parole des officiels qataris en condamnant l'attitude de la France. Donc, ça soulève beaucoup de questions. En France, ça fait aussi grincer des dents, mais il y a toujours un petit peu cette parole très contrôlée.
Il y a question aussi, Vanessa, sur la présence d'ONG qataris au Mali avant cette intervention aussi, mais on n'a plus le temps d'en parler, mais il y a des questions qui se posent.
C'est des questions qu'on soulève, dans lesquelles on revient assez longuement d'ailleurs dans le livre, sur les organisations humanitaires caritatives du Qatar, qui sont présentes dans énormément de pays, sur différents continents, dont au Niger et au Mali. Donc voilà, lisez le livre pour en savoir plus.
Vanessa Ratignier, est-ce qu'aujourd'hui cet état de dépendance, cette soumission, je pense qu'on peut parler en quelque sorte de soumission, a un peu changé depuis l'élection de François Hollande ? Est-ce qu'il y a un changement de cap ?
Les contours ont un peu changé, mais le nœud reste identique, c'est-à-dire que suite à son entrée à l'Élysée, Hollande a redéployé les alliances diplomatiques françaises dans la région.
Rééquilibré,
voilà, on est sur une diplomatie plus raisonnée, si je puis dire, où le Qatar n'est plus le pivot de la diplomatie française. Maintenant, il demeure une extrême sensibilité, il y a comme quelque chose qui résiste. Pour preuve, les conditions dans lesquelles la mission laïque française qui gérait un lycée franco-qatari à Doha a dû quitter le pays pour avoir refusé de plier face à la censure. En témoigne également le combat de différents ressortissants français qui ont passé plusieurs années bloqués au Qatar car ils n'ont pas voulu se soumettre au chantage de leur sponsor qatari. En témoigne également l'exprime l'évacuation en urgence de deux proviseurs des lycées français, accusés, semble-t-il, d'attitude anti-musulmane. Et donc, dans tous ces dossiers-là, la France semble terriblement en retrait. La diplomatie ne semble pas proactive sur ce sujet-là. Enfin, les liens sont encore très forts et nous conduisent à malmener les principes républicains dans un contexte, certes, économique difficile, mais qui ne justifie pas de la part de Paris un tel mutisme.
Le Qatar, Vanessa Ratigné, qui décore assez régulièrement des Français. Vous n'aurez jamais la médaille, à mon avis. Hein.
Non, je pense que je ne serai pas décoré par le Qatar. Oh, grande tristesse, je pense que je ne vais pas non plus y retourner tout de suite. Il m'avait d'ailleurs été difficile d'en sortir la dernière fois. Mais rien à voir, puisque beaucoup, certains de nos confrères ont, eux, été arrêtés, oui, interrogés à Doha pour leurs enquêtes, pour avoir pris des photos. Enfin, c'est un pays très particulier. Mais oui, le Qatar va poursuivre sa politique d'honneur, on va dire, puisque dans cette quête effrénée d'influence, remettre des décorations, organiser des réceptions, inviter les relais d'opinion aux plus grandes tables.
Jouer sur la vanité et la cupidité.
Tout à fait, leur permet d'acquérir à petit prix une influence considérable.
Merci Vanessa Ratigné, il faut lire votre livre écrit avec Pierre Péan, cette enquête écrite avec Pierre Péan, une France sous influence quand le Qatar fait de notre pays son terrain de jeu. Ce livre est publié chez Fayard.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Avec Pierre Pellegrin, nous parlerons de l'œuvre d'Aristote, tout autre chose, à l'occasion d'une nouvelle publication de ses écrits. Alors si vous voulez réviser ou connaître l'apport d'Aristote à la pensée et pas simplement à la philosophie, je vous recommande vivement d'écouter le magazine Idées demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.